tu es une voleuse et une bandite.
Criblé.
Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise.
J'irai voir avec le poste.
Alors, donc moi, donc je m'appelle Magali. Je joue un petit rôle au tout début de l'acte 1 qui s'appelle Vengerovitch. Assez vite, je prends le rôle de Sofia Yegorovna, qui est un des rôles féminins importants de la pièce.
Ce rôle, tu l'aimes bien? Tu l'as choisi? On te l'a donné? Comment ça se passe?
C'est Mathias qui m'a distribué dedans. Oui, maintenant, je l'aime. En fait, on connaissait bien la pièce avant que Mathias nous propose qu'on la monte. Et moi, j'avais déjà travaillé le rôle de Anna Petrovna, que joue Mélina. J'avais travaillé ce rôle-là, et ce qui est un rôle que j'aime beaucoup. Et donc, Sofia, je l'aimais un peu moins. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à l'aimer. C'est un très beau rôle. En vrai, c'est un super cadeau qu'il m'a fait.
Et c'est quoi qui faisait que tu ne l'aimais pas? C'est le personnage en lui-même ou...
Alors en fait, ce que j'aimais moins, c'est qu'elle est beaucoup en demande de... Enfin en fait, on comprend qu'elle vient, donc elle vient d'un milieu assez intellectuel. On ne sait pas trop pourquoi elle se retrouve ici. On comprend qu'elle a des problèmes de santé, mais c'est pas développé plus que ça. Elle arrive, elle vient de se marier, et puis en fait très vite, en retrouvant Platonov, ça la perturbe beaucoup, parce que lui aussi d'ailleurs, ça le perturbe beaucoup. Ils sont beaucoup sur cette nostalgie des rêves qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas accompli les deux en fait. Mais c'est vrai que les deux se mettent, c'est un peu un miroir d'eux-mêmes aussi, dans le sens, voilà où on en est, et en fait aujourd'hui où on en est, c'est pas ce qu'on voulait faire quand on était plus jeune, c'est pas là où on voulait être. Et c'est juste que je l'aimais pas trop aussi, parce que dans la suite de la pièce, bon, évidemment, il l'a reséduit, mais pas que elle. Et en fait, ouais, dans la suite de l'histoire, je trouve qu'elle est beaucoup en demande, très exigeante. On comprend qu'elle les juge beaucoup, qu'elle aime pas Trilitsky, elle trouve que c'est un fanfaron, et elle regarde un peu tout le monde de haut. Elle, c'est l'étrangère qui vient dans ce milieu, quoi, dans ce monde. Bon, ça, je le trouve en même temps assez beau, c'est qu'elle est vraiment dans l'absolu, quoi. Pour elle, à partir du moment où elle décide d'aller avec Platonov, voilà, son mariage est fini et elle se donne corps et âme, quoi. Et ça va se finir mal et elle devient folle, en fait, à la fin. Parce que pour elle, en fait, elle s'est donnée à lui, donc elle a sacrifié son mariage, mais du coup, elle a aussi sacrifié son honneur, parce qu'à cette époque-là, déjà, tu rompais pas un mariage comme ça. Et puis, les femmes étaient dépendantes des situations des hommes. Et donc, c'est pour ça que je trouve... À la fois, du coup, j'ai appris à l'aimer pour ça, parce qu'en fait, elle prend le risque en fait de tout perdre pour lui. Et mais du coup, voilà, elle est à la fin, c'est horrible parce qu'elle est en pitié pour elle. Quand il la rejette, à la fin, il la rejette et elle devient folle, quoi.
C'est quoi ta façon de travailler ton rôle? Quelle manière tu vas travailler, apprendre, répéter?
Évidemment, on lit toute la pièce parce qu'il faut quand même avoir une vue globale de la pièce, même si on crée qu'un seul acte au début. Pour Platonov, en l'occurrence, pour cette pièce-là, en l'occurrence, c'est plus petit à petit, en lisant, relisant la pièce, en apprenant le texte. Et puis aussi avec Mathias, là je t'avoue, je ne me rappelle même plus trop ce qu'on avait fait, mais on avait eu des discussions déjà chacun, ils nous avaient fait un entretien chacun, où on avait pu déjà, juste à la table, explorer des pistes vraiment d'interprétation et de vraiment sur les enjeux, tirer un peu les fils de ce qui ressort du texte, des caractères et tout ça. Voilà, je n'ai pas fait un travail plus... travail psychologique ou quoi. Enfin, je trouve qu'avec ce travail-là, avec Mathias, ça a plus été une infusion lente, quoi. Après, Mathias nous a donné parfois des petits devoirs comme ça, des petites impros à faire ou des petites recherches. Donc, ce qui fait aussi qu'on se positionne plus. Ok, alors qu'est-ce que je ferais en tant que Sofia là? Qu'est-ce qu'elle ferait? Ça permet de personnaliser beaucoup les choses.
Parlant de ça, quelle est ta part d'impro dans la pièce?
Maintenant, je dirais que l'impro, elle est pas tant de rajouter du texte, de tout ça. C'est surtout par rapport aux espaces, en fait, par rapport au mouvement, au dessin dans l'espace. Mais là, tu vois, cet acte-là, on va pas pouvoir faire de filage avant de jouer. Donc, ça va être vraiment one shot ce week-end. Et du coup, il va y avoir forcément des réadaptations, des surprises, des « Ah oui, tiens, je m'étais dit que j'allais aller là-bas, mais en fait, là, je le sens pas, donc je vais pas aller là-bas. » Enfin, tu vois, faire les choses un peu différemment.
Bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Moi, c'est Alexandre. Je joue Vassili, un serviteur de la maison. Et je fais de la musique sur le projet Platonov. En fait, on avait déjà travaillé sur une autre pièce de théâtre avant avec ce collectif où je prenais en charge la musique. Et du coup, je continue à le faire. Et le fait d'être serviteur, ça permettait de ne pas avoir trop de textes à apprendre, de justifier ma présence au plateau. Et c'était confortable, quoi.
La musique que tu fais, c'est une musique originale ou alors c'est une reprise, une adaptation ?
Là, ce qu'on a entendu, c'était une reprise de Mozart de la Flûte Enchantée. Et du coup, c'est une partition qui est adaptée pour la guitare, quoi. Et dans la pièce, il y a différents répertoires. L'idée de choisir du Mozart, c'était aussi pour poser un cadre un peu spatio-temporel à la pièce. La guitare classique, c'est un instrument qui était assez joué à l'époque à la cour russe, un instrument assez bourgeois. Donc ça pose un peu le salon bourgeois. Et ce répertoire, c'était des choses qui pouvaient être jouées à ce moment-là. Donc comme en fait on n'avait pas en costume d'époque ni rien, c'était pour ajouter une petite touche pour placer l'histoire, quoi.
La musique, elle prend quelle place dans le spectacle ? Elle est dans chaque acte ? Elle est tout au long des scènes ? Elle est que dans certaines scènes ?
Bah ça dépend des actes, quoi. Il y a même un acte où je joue pas du tout, juste à la fin, un petit truc au piano. Moi, ça dépend des actes et de comment est-ce qu'on veut habiller. Là, je parlais pas mal de la Flûte Enchantée. C'est une pièce qu'on entend beaucoup au premier acte, qui est pour poser l'ambiance. Après, je passe sur d'autres répertoires. Genre, il y a un moment où je joue du Fauré. Il y a des moments où on chante des airs d'origine slave. Et ça varie un peu.
Je m'appelle Judith Goudal et dans la pièce, moi j'ai un peu tous les petits rôles, mais j'ai surtout un rôle dans la sous-fiction parce que je sais pas si on t'en a parlé déjà ou pas encore, mais en fait il y a la fiction qui est la pièce Platonov et il y a la sous-fiction qui est nous qui essayons de jouer la pièce Platonov. Et dans la sous-fiction, moi je joue la petite sœur de Cécile qui est la metteuse en scène dans la sous-fiction et qui essaye absolument de s'incruster dans le spectacle au grand dam de Cécile qui veut pas que sa petite sœur joue dans le spectacle.
Je suis pas sûr qu'on m'a parlé de la sous-fiction. Est-ce que tu peux me raconter du coup, vite fait, me présenter la sous-fiction ? Ça se passe pendant les déplacements, c'est ça ?
En fait, la sous-fiction, elle est présente tout le temps. C'est vraiment l'histoire un peu en parallèle qui augmente la fiction. C'est-à-dire que dans la sous-fiction, Cécile, qui joue Grekova, est la metteuse en scène du spectacle et ne veut pas jouer dans le spectacle et est amoureuse de Arnaud, qui dans la fiction joue Nikolai. Et donc dans la sous-fiction, il y a Magali, qui s'appelle Magali et qui joue Sofia, et moi j'aimerais trop jouer Sofia. Enfin, il y a un peu plein de... En fait, on a tous notre personnage de fiction et notre personnage de sous-fiction qui est proche de nous, qui porte notre nom, mais qui à la fois est pas tout à fait la vérité, parce que Cécile et moi, on n'est pas sœurs, c'est pas elle la metteuse en scène, Arnaud... et Cécile ne sont pas ensemble. Enfin, donc tout ça, c'est des choses qu'on s'est racontées entre nous pour que quand on joue les scènes, ça rajoute encore une couche supplémentaire d'enjeu à nos personnages et où finalement on sait plus très bien la différence, où nos personnages savent plus très bien la différence entre la fiction et la sous-fiction. Quels sont les enjeux de leur personnage de Tchekhov et quels sont les enjeux de leur personnage de la sous-fiction.
J'étais pas au courant. Vous aimez vous compliquer la vie.
Oui, c'est super.
Et du coup, tu disais que tu jouais plein de petits personnages. Tu les as tous en tête, les noms, là ?
Alors, je joue Lizotchka, Marco, Bougrov, je sais plus après. Ouais, un peu plein. En fait, un peu tous les... Comment est-ce qu'on dit toutes les servantes, tous les serviteurs, un peu les personnages qui sont censés juste amener des lettres, enfin, ou comme ça. Et du coup, en fait, ou bien voilà, des petits personnages qui, dans la pièce, ont vraiment des mini-scènes et qui disparaissent très vite, où c'est vraiment un peu presque des cache-misères, des bouche-trous. Enfin, c'est un peu... Ma sœur m'autorise à faire vraiment que les trucs où vraiment, c'est pas censé impacter l'histoire plus que ça.
Et qu'est-ce que tu as réussi à apporter à ces petits personnages ou aux personnages de sous-fiction? Qu'est-ce que tu apportes à ces rôles?
Je pense que mon personnage apporte beaucoup de légèreté et c'est un peu cette chose qui est présente dans beaucoup de pièces, mais où il y a souvent des enjeux très forts, des grandes émotions et en parallèle des histoires plus anodines ou plus légères et qui font qu'un peu cette espèce d'immense fresque où on est tellement nombreux et nombreuses et où ça va dans tous les sens avec plein de plans différents, ben d'un coup moi j'occupe un peu comme des petits coins de cadre où on peut lire ma petite histoire en filigrane et en parallèle et où ça impacte pas la grande histoire, mais ça fait qu'on a vraiment cette sensation de fresque avec tout le temps partout des petits enjeux, des petites choses qui se passent et des choses aussi un peu un effet papillon où en fait tout influence tout, la grande histoire influence la mienne et donc moi c'est quelque chose qui m'amuse énormément, enfin qui me fait aussi penser à la bande dessinée où il y a beaucoup de bandes dessinées qui ont ce travail là d'avoir un peu des personnages principaux puis on peut suivre l'histoire d'une coccinelle en parallèle qui vit sa petite histoire et puis moi ça me fait beaucoup rire et je pense qu'il y a aussi besoin de cette légèreté dans cette pièce.
Comment est-ce que tu gères ton stress et comment tu vois les autres gérer leur stress?
Alors, on gère tous et toutes notre stress très différemment. Moi, je crois que je suis très en panique avant et j'ai besoin de revoir les choses. Il y a Achille avec nous qui nous aide à ce que le spectacle existe un peu dans l'ombre comme ça et souvent c'est lui qui reçoit mon stress juste avant de commencer parce que tout le monde aussi est en train de se placer, on a une très grande mise, c'est-à-dire préparer nos accessoires parce qu'on doit un peu poser des choses partout dans la forêt. Du coup souvent je me retrouve un peu toute seule avec lui et il doit supporter le fait que je saute un peu dans tous les sens, que j'ai besoin de lui refaire mon texte, de lui dire que ça va être terrible et qu'il me dise non et que ça me fasse rire et que du coup en fait je me fais aussi rire en faisant des caisses et en me disant oui c'est ridicule en fait ça va aller très bien.
C'est quoi ta manière d'apprendre ton texte?
Moi j'ai l'impression que ça passe pas mal par le corps mais j'avoue que je fais un peu tout dans le sens où je le stabilobosse avec des couleurs différentes, où je l'écris... Je le réécris et je fais un peu des différences entre les différents paragraphes pour dans ma tête faire des blocs de pensée. Mais je l'enregistre aussi souvent pour l'écouter après en marchant. Et puis finalement, ce qui me semble être le plus efficace, c'est par le corps, dans le sens où soit je le répète en marchant, puis avec mon corps j'accompagne les différents blocs de pensée. Soit une fois qu'on est sur scène dans la scène, je sais que d'un coup il vient hyper facilement parce que je peux associer ces différents mouvements de pensée à des positions dans l'espace et les situer et ça les fixe beaucoup mieux dans ma mémoire. Des fois c'est le dire, cacher, après recouvrir, enfin voilà, y a un peu tout ça.
Merci beaucoup.
Mais avec plaisir, Léo.
Papa, ah, je suis le spectre de ton père, condamné pour un temps, à errer la nuit et le jour, toutes ces âmes en peine, et la nuit forcée à jeûner dans le feu, jusqu'à ce que les crimes abjects commis de mon vivant soient brûlés et expurgés, non j'ai pas fini. Il m'est interdit de dire le secret de ma prison, mais je pourrais te raconter une histoire dans le moindre
moment. C'est toi qui aurais dû déprogrammer à Genève.
Alors, je m'appelle Jonas Lamblay, et dans la pièce, je joue Kirill Porfirievitch Glagoliev II.
À tes souhaits.
Merci. Qui est le fils de Glagoliev I, premier du nom, mon père. Qui est un amoureux transi de la générale Anna Petrovna, et comme il est amoureux, il leur prête énormément d'argent, et surtout il est propriétaire de terres qui leur appartiennent. Et moi je suis son fils un peu sale tête, qui vit normalement à Paris, mais qui, comme il est un peu oisif à Paris, revient quémander de l'argent à son père pour pouvoir continuer à mener la grande vie à Paris.
Je t'ai vu jouer un peu d'un instrument tout à l'heure. Est-ce que tu en joues aussi dans la pièce?
Oui. Là, moi, dans la pièce, je joue un peu d'erbouka. Voilà.
Dans ce rôle, comment il te sied? Qu'est-ce que tu lui apportes? Comment il te va? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que c'est un rôle qui te correspond?
C'est un rôle assez rigolo parce qu'en fait, c'est une toute petite partition. C'est un personnage dont on pourrait presque se dire que la pièce pourrait se passer, mais qui en fait amène juste un ou deux éléments perturbateurs et dont les scènes sont des scènes assez drôles. Et je pense que c'est assez. Je sais pas si c'est un emploi ou un contre-emploi que de me distribuer dans le rôle d'un connard, mais en tout cas c'est très présent à faire.
Est-ce que tu lui apportes quelque chose de personnel et si oui, du coup, quoi?
Non, j'espère pas. Toute la connarditude dont je suis capable. Je sais pas qu'est-ce que je lui apporte. Non, je saurais pas trop dire ce que je lui apporte.
Tu étais là dès le début de la création de la pièce, tu as gardé le même rôle tout le long, du coup, j'imagine. Est-ce qu'il a évolué ce rôle?
Alors non, moi j'étais pas là la toute première année de l'acte 1 où mon rôle était interprété par Mathias, le metteur en scène. Et donc moi je suis arrivé la deuxième année et puis j'ai été distribué dans ce rôle parce que c'était une année où par ailleurs je travaillais sur une autre production. C'est assez rigolo parce qu'il y a eu une membrane de porosité entre les deux travaux où... je jouais à l'époque Hamlet dans Hamlet, et du coup, comme il est question de Hamlet dans Platonov, Mathias s'est organisé pour que rejaillissent des fragments de Hamlet distillés par mon personnage tout au long de la pièce. Et donc oui, après, je l'ai gardé tout du long et jusqu'à la fin.
Et dans la sous-fiction, tu as une place comment?
Dans la sous-fiction, ben je suis un peu le pote connard parisien de la troupe qui vient les voir et qui à la base n'a pas envie de jouer dans cette pièce, puis qui est un peu embarqué malgré lui et qui du coup malgré lui va essayer d'amener un peu de trouble dans cette troupe de gens qui sont venus me déranger au début. Je joue ce personnage du coup qui a tout le temps envie de jouer autre chose parce qu'il trouve quand même que ce qu'il joue c'est pas bien, et lui il aimerait bien faire Shakespeare parce qu'à Paris on fait du grand théâtre comme du Shakespeare.
Ce que j'aime bien demander aux gens c'est leur façon de gérer le stress.
Ben, c'est assez rigolo sur cette pièce pour moi parce que c'est en général il y a le stress avant le début et puis ensuite il y a une espèce, enfin pour moi une espèce de où le stress monte, il s'agit un peu de le gérer etc, et puis après une fois que d'un coup quelque chose a commencé, c'est quelque chose qui a un peu géré, sur lequel on surfe, et puis voilà. Mais en l'occurrence, dans cette pièce, moi, je commence presque 2 heures après les autres, et en plus, j'assiste aux autres, et donc du coup, à ce qu'ils font. Et donc du coup, il y a tout une gestion assez particulière de l'énergie entre la pièce a déjà commencé, mais de savoir que en fait le stress va commencer à monter au fur et à mesure et se déclencher à contre-temps en fait finalement de celui des autres, et après bah forcément sur une pièce et un projet comme ça aussi long, ben il y a à gérer cette énergie et ce stress là tout du, il y a quand même quelque chose que au début des 14 heures, il y a un peu de stress, puis après ça passe. Mais où quand même, ensuite, des fois, on a des plages où on n'a rien pendant un bon bout de temps et il s'agit de revenir. Et donc, il y a toujours cette espèce de ce petit picotement avant de se dire, mince, est-ce que c'est vraiment là le moment? Puis de jouer in situ, dehors, dans des lieux qui changent en plus, ça apporte son lot de petits stress qu'il n'y a peut-être pas dans un théâtre, de se dire, est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Est-ce que j'arriverai à temps? Est-ce que j'ai bien entendu mon top? Est-ce que je ne rate pas? Est-ce que je ne vais pas laisser quelqu'un tout seul en carafe? C'est plein de petits stress différents.
Ça va, tu n'as pas trop les autres qui peuvent décharger du stress sur toi vu que tu commences après eux?
Non, je crois pas. Je pense que... Je sais pas si... C'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux autres. Je sais pas. Moi, j'aurais pas une gestion du stress. Le stress me fait plutôt... me donne plutôt l'envie de me recentrer et puis de me concentrer un peu sur la trajectoire, les points de repère, les points de rendez-vous, plutôt que de... d'aller voir tout le monde. Mais oui, je pense que peut-être que dans ces moments-là, je peux être une, pour les personnes qui auraient envie de beaucoup parler avant le début du spectacle, je peux être une oreille un peu disponible parce que mon stress à moi viendra une heure et demie après.
Et parfait, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je ne voudrais pas me salir les mains. Je vous ai dit, monsieur, que soit vous étiez un homme extraordinaire, soit une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise. Non, je ne pleurerai plus maintenant. Je suis heureuse d'avoir fini par découvrir quel personnage vous êtes.
Alors, moi, je m'appelle Chloé, et dans la pièce, je joue Sacha, la femme de Platonov.
Moi, je m'appelle Cécile, et dans la pièce, je joue un peu deux choses. La metteuse en scène de ce spectacle, et aussi Grekova, qui est une jeune fille... qui est très en colère contre Platonov.
Comment vous vous voyez par rapport à ces rôles? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Est-ce que c'est un rôle qui a été choisi?
Moi, à la base, non, c'est pas du tout un rôle dans lequel je me retrouve. Et c'est un rôle qu'on... Mais c'est un rôle qui est très beau, mais c'est un rôle qu'on a beaucoup repensé et qu'on a beaucoup réécrit pour que ce soit pas juste... un rôle de faire-valoir par rapport au personnage de Platonov ou par rapport à d'autres personnages de la pièce. Du coup, j'ai glissé de moi dans le rôle, et tout en essayant de pas non plus déformer trop la sensibilité de ce personnage, mais voilà, en essayant de lui donner peut-être un petit peu plus de consistance.
T'as des exemples de ce que tu as pu glisser ?
Oui, plusieurs. Ben, en fait, normalement, le personnage dans la pièce, c'est vraiment un personnage qui est assez discret, qui a assez peu de texte et de répartie. Et puis du coup, on en a fait un acte, en fait, ça, de lui rajouter, par exemple, dans l'acte 1, on lui a vraiment rajouté un moment où elle raconte une histoire pour qu'elle puisse un peu raconter son point de vue sur l'histoire d'amour qu'elle a avec Platonov.
Ben pareil, moi, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est Mathias qui a distribué les rôles à tout le monde. Et par contre, ben, forcément, c'est des choses où on a monté ces actes en très peu de temps. Et donc, du coup, nos premières propositions sont les bonnes. Et puis, ben, par exemple, moi, j'aime beaucoup courir, puis mon personnage se retrouve à courir beaucoup. Ou alors, le fait d'être lié à une part d'impro aussi, dans cette sous-fiction où je suis la metteuse en scène de la pièce, ben, où il y a de l'impro qui vient. Et donc, forcément, c'est nous qui rajoutons des mots, c'est nous qui rajoutons ce qu'on a envie de faire. Et puis, forcément, dans cette pièce avec des femmes du 19e siècle, ben, il y a toujours une question qui se pose par rapport aux rôles, les rôles féminins, les rôles masculins, et puis comment on s'en empare pour que ben, ce soit crédible pour nous aujourd'hui. Et donc forcément, on essaye de leur insuffler un peu de la force ou de la parole, un peu plus que ce qui serait donné dans la pièce. Surtout vu le thème de la pièce, je dirais que c'est important.
Tu parlais juste un peu avant de la vision du coup de la femme dans le texte qui a été un peu réadaptée au goût d'aujourd'hui, avoir plus de sens. T'as des exemples de ce qui a été fait ?
C'est dur à dire parce que c'est un texte qui est à la fois très compliqué sur la question de la femme et à certains côtés trouve très féministe. Et du coup, ben, on oscille entre les deux. Et puis c'est une question qui est très compliquée aujourd'hui de se positionner. Est-ce que se rajouter du texte et moins jouer qu'on est quelqu'un d'oppressé, est-ce que ça c'est rendre service au propos ou est-ce qu'il faut au contraire vraiment montrer en fait ce qui se passe et jouer à fond les oppressions, jouer à fond le fait qu'on ait moins de texte? Et ça, c'est des questions auxquelles on est toutes et tous confrontés aujourd'hui. Et je dirais que juste s'emparer pleinement de ce rôle, le rendre vivant et puis lui donner une validité en fait, et pas que de pas être juste un faire-valoir pour les rôles masculins qui vivent des grandes histoires d'amitié, ben, et leur donner une légitimité propre. Après, ben, chacune le fait comme elle peut, avec ce qu'elle est comme actrice et avec son envie. Mais ouais, déjà de dire je suis pas un faire-valoir et ça a sa trajectoire propre, elle a de la valeur. Ben, essayer de faire ça, et puis ben, soit le texte suffit avec ça, soit ben, on a parfois rajouté du texte, notamment pour le personnage de Sacha. Moi, dans le prologue, je rends hommage aussi à la sœur de Tchekhov, qui s'appelle Maria Tchekhova, puis qui a recopié le manuscrit de Tchekhov, et qui fait que ça nous est parvenu aujourd'hui, mais sans elle, on n'aurait pas ce texte-là, et en fait, personne ne connaît son travail de l'ombre, on connaît que le travail de son frère, qui était un écrivain connu. En fait, il y a un peu plein de petites manières de faire, mais je dirais qu'il n'y a pas de recette.
Bah, c'est vrai que dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que pour l'époque, la question de la femme, elle est justement traitée, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une attention à ça de la part de Tchekhov au moment où il écrit le texte, Du coup, je trouve ça important et juste que nous aussi, on se pose des questions aujourd'hui pour pouvoir être en fait à sa hauteur, mais sachant qu'on a, qu'on est ici maintenant longtemps après qu'il ait écrit ce texte, donc je trouve ça juste qu'on se mette dans la même démarche que lui. Et après, je trouve ça très juste ce que dit Cécile, c'est effectivement, ça pose mille questions, et je pense que l'important c'est qu'on se les pose, et c'est pas grave si on trouve pas la bonne réponse, et je suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que effectivement le réflexe, ce serait peut-être d'avoir autant de textes que les rôles masculins, que ce soit des textes autant... qu'on les joue de façon aussi théâtrale, avec une voix aussi forte. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt que de vouloir être à égalité, en fait, de vouloir laisser apparaître une sensibilité, des silences, des moments plus calmes. Je trouve ça assez important aussi, de pas vouloir faire la même chose, mais de vouloir défendre une partition et une sensibilité qui est autre.
Que je trouve aussi que dans la pièce, ce qui est intéressant par rapport au parcours général, c'est qu'au début, il y a vraiment ce truc où on aime ces personnages masculins, où ils nous font beaucoup rire, où ils sont très, très éclatants comme ça. Et puis en fait... Merde. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils deviennent aussi insupportables, et pour le public, et aux yeux des autres personnages. Et qu'en fait, c'est aussi ce truc de tuer les héros au sein même de la pièce, où en fait ces personnages qu'au début on peut trouver tellement intelligents, tellement brillants, tellement aimables, et ces acteurs aussi, vu qu'on mélange un peu tout, petit à petit on les déconstruit, et du coup on est beaucoup plus en empathie avec les personnages féminins qui les subissent dès le départ. Et ça, je trouve aussi intéressant comme trajectoire que fait en fait la pièce d'elle-même, et qu'on augmente peut-être un peu, mais...
J'ai souvenir que c'est un personnage qui peut jouer beaucoup avec des accessoires et des décors. Je crois qu'elle est derrière une fenêtre, qu'elle crie, des choses comme ça. Comment c'est rattrapé du coup dans une scénographie externe comme ça ?
Mais c'est vrai qu'effectivement l'acte 3, c'est l'acte entre guillemets où il y a le plus d'accessoires ou de décors, parce que normalement c'est l'acte qui se passe dans l'école, donc chez Sacha et Platonov, et nous on a remplacé cette école par une caravane, et du coup ça se joue devant la caravane, et il y a un petit salon de jardin qui effectivement est notre plus gros décor entre guillemets. Et après il y a des choses dont on peut tout à fait se passer du moment que cet endroit du foyer est représenté de cette façon là
et bien merci beaucoup.
Merci.
Tous les deux, ça vous va ?
Oui, bien sûr. Mais bien. Moi, je suis Adrien Mani et je joue deux rôles dans la pièce, Glagoliev et Ivan Ivanitch, qui sont deux pères différents. Voilà.
Moi, je m'appelle Robin, je suis un peu l'homme à tout faire de la troupe, et dans le spectacle, je joue Yakov, qui est l'intendant, un peu l'homme à tout faire, on peut dire, de la générale, et également Robin, qui est du coup un peu l'homme à tout faire de la troupe.
Comment vous voyez votre rôle ? Est-ce que vous l'aimez beaucoup ? Est-ce que ça a été compliqué au début ?
Moi, du coup, j'ai deux rôles. La première année, j'en avais qu'un seul, et puis après, j'ai repris un rôle parce que une comédienne était absente la deuxième année, puis après, je l'ai gardé. Moi, je les aime bien et ils sont assez... ils me font beaucoup rire à jouer. Et ils sont dans des contrastes. Ils sont contrastés à jouer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà.
Et du coup, en tant qu'homme à tout faire, comme tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire ? T'as des exemples ?
Ouais. À la base, alors maintenant, il y a heureusement Achille qui nous a rejoints et qui fait beaucoup parce que j'étais trop au plateau pour faire... Pour faire toute la technique. Mais tout à la base sur le projet, je faisais beaucoup les courses, bêtement, pour qu'on aille à manger, aller tout d'un coup chercher un 4x4, parce qu'on a un 4x4 dans une scène, qui est maintenant un tracteur, construire une douche solaire, couper des bio de bois pour construire un gradin pour le public, construire des assises pour le public. Donc, ouais, plein de petites choses Donc oui, voilà, des petites choses comme ça, ouais, tout ce qui est un peu logistique autour, aller chercher à manger un petit 4 heures pour les acteurs et actrices, voilà, ce genre de choses.
D'accord, ben merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est donc vrai que tu es une voleuse et une bandite ?
Criblé !
Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire ! Je vous méprise !
J'irai boire.